Les dessous de l'Infox. Sébastien Duhamel.
Bonjour à tous. C'est sans conteste l'un des fléaux de notre temps. Les fausses infos, les fake news, elles pullulent en masse sur Internet, sur les réseaux. Et c'est l'heure d'en démonter quelques-unes, comme tous les vendredis sur RFI. Les dessous de l'Infox, c'est parti. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous recevrons Thomas Huchon, co-auteur du livre Anti-Fake News, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. Mais d'abord, notre chronique, comme toutes les semaines. Bonjour Grégory Genévrier.
Bonjour Sébastien.
Vous revenez aujourd'hui sur le second tour de la présidentielle française. C'était dimanche dernier. Depuis, certains affirment sur les réseaux sociaux avoir découvert qu'Emmanuel Macron aurait remporté l'élection grâce à une fraude massive. Mais les preuves apportées pour démontrer cette prétendue fraude, en réalité, c'est des infox, Grégory.
Oui, vous avez sûrement vu passer cette tendance sur les réseaux sociaux cette semaine avec le hashtag fraude. Des milliers de posts, souvent accompagnés d'images de la soirée électorale de France 2, diffusée dimanche soir. On y voit un graphique actualisé en direct avec les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un graphique qui va attribuer plus de 14 600 000 voix à Marine Le Pen aux alentours de 21h10, alors que le décompte définitif indique qu'elle a recueilli un peu plus de 13 200 000 voix. Une preuve pour certains que plus d'un million de votes pour Marine Le Pen se serait donc envolé dans la nature.
Alors, pour qu'on comprenne bien, ces images, elles sont bien réelles, Grégory, mais elles ne prouvent absolument rien.
Bien non, puisqu'en réalité, c'est le résultat d'un bug informatique. Le logiciel chargé de récupérer automatiquement les données du ministère de l'Intérieur a dysfonctionné. Certaines communes ont notamment été comptabilisées deux fois. France 2 s'en est rendu compte et a corrigé son graphique vers 22h. La chaîne et son prestataire se sont ensuite excusés pour cette erreur qui a touché les résultats, précisons-le, des deux candidats. Ajoutons que les archives disponibles du site du ministère de l'Intérieur montrent bien que Marine Le Pen n'a jamais été créditée de plus de voix qu'elle en a obtenu au final du décompte.
Et alors derrière, en coulisses, si on peut dire, qui diffuse cette théorie finalement d'une fraude massive ?
On retrouve les acteurs traditionnels de la complosphère, tous soutiens de Marine Le Pen pour le second tour. Sylvano Trotta, la youtubeuse suisse Chloé Framery ou encore l'homme politique François Asselineau. Ce sont les mêmes qui avancent que la pandémie de Covid-19 est une invention ou encore que le vaccin est un poison, qui affirment aujourd'hui qu'il y a eu fraude. L'avocat Carlo Alberto Brusa et l'essayiste Morad El Attab, deux complotistes influents, viennent de déposer ce vendredi un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester la légalité de l'élection.
Et ce narratif, est-ce qu'il reste cantonné à la France ou est-ce qu'il dépasse déjà nos frontières ?
Il dépasse les frontières puisque cette infox de l'élection truquée s'est propagée dans des groupes de discussion étrangers, notamment sur Telegram, en Suisse, en Belgique ou en Espagne. Aux États-Unis, la sénatrice pro-Trump de l'Arizona, Wendy Rogers, a tweeté le 25 avril, je cite, « Macron a volé l'élection ». Elle fait allusion au goût des Français pour la Révolution et les encourage à continuer d'investiguer pour prouver cette prétendue fraude.
Bon, il y a des infox autour de l'élection, on l'a compris, mais si on regarde le fond, Grégory, est-ce qu'il y a quand même eu des problèmes lors du scrutin ?
Plusieurs irrégularités ont bien été constatées dans une trentaine de bureaux de vote en France, mais ce ne sont pas des fraudes, mais des manquements dans l'organisation du vote, comme il y en a à chaque élection. 20 000 suffrages ont ainsi été annulés par le Conseil constitutionnel qui a validé la victoire d'Emmanuel Macron définitivement ce mercredi. De son côté, par ailleurs, Marine Le Pen n'a jamais contesté les résultats. Mais ça n'empêche pas les complotistes de crier à la fraude et d'essayer de semer le doute. Une initiative inspirée par ce qu'il s'est passé aux États-Unis après la défaite de Donald Trump.
Grégory Genévrier, la chronique des dessous de l'Infox a retrouvé tous les vendredis sur notre antenne et tous les jours, bien sûr, sur internet rfi.fr. On continue de parler de la présidentielle française dans les dessous de l'Infox. Et on reçoit maintenant Arthur Bamas de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Sébastien.
Ces dernières semaines, vous avez justement surveillé les réseaux sociaux, la diffusion de fausses informations liées à la campagne présidentielle. Quel est votre constat final ?
Alors, aux Observateurs, nous sommes spécialisés dans la vérification de fausses informations visuelles, par exemple des vidéos sorties de leur contexte. Or, lors des derniers grands rendez-vous politiques, tels que les élections aux États-Unis ou notre élection présidentielle de 2017, nous avions assisté à la diffusion massive de fausses images véhiculant des messages racistes ou islamophobes pour influencer les électeurs. Et bien finalement, ces dernières semaines, cette désinformation politique a été à l'image de cette campagne électorale, c'est-à-dire plutôt calme. Nous n'avons écrit qu'une petite dizaine d'articles de vérification liés à la présidentielle et nous avons remarqué que les comptes diffusant habituellement de la désinformation étaient principalement focalisés sur la guerre en Ukraine.
Si on comprend bien, une campagne plutôt calme, donc Arthur, mais vous avez quand même constaté une légère accélération des fausses informations, plutôt dans l'entre-deux-tours d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Par exemple, on a vu un supposé tweet de la BBC relayant une citation d'Emmanuel Macron. D'après les comptes qui partageaient une capture d'écran de ce tweet, l'actuel président de la République aurait annoncé l'arrivée en Europe de 60 millions de réfugiés dans les 20 prochaines années. Eh bien, ce tweet était un faux. Il s'agissait en fait d'un montage imitant la charte graphique du média britannique. Ces faux tweets sont très faciles à produire, donc de plus en plus nombreux. Pour les vérifier, il faut penser à aller sur le compte officiel du média, donc ici sur le compte de la BBC. Grâce à cela, nous avons constaté que le tweet n'a jamais été publié et d'ailleurs qu'il n'existait aucune trace de cette phrase de la part d'Emmanuel Macron.
Et finalement, on en est au bilan, hein, Arthur. Alors, quelle a été la thématique qui a suscité finalement le plus de désinformation dans cette élection ?
C'est celle de la fraude électorale. Ce sont des publications qui sont arrivées assez tardivement, c'est-à-dire par exemple la veille du premier ou du second tour, ou même après l'annonce des résultats. On en parlait plus tôt dans cette émission avec cet extrait de la soirée électorale de France 2. Nous avons aussi repéré des publications qui montraient des bulletins de vote comportant de légères imperfections, comme par exemple une tache d'imprimerie ou une très petite déchirure. Les comptes qui partageaient ces publications ont affirmé que ces bulletins, qui étaient tous au nom d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, avaient été volontairement détériorés pour les rendre nuls, et donc finalement pour faire perdre des votes à ces deux candidats d'extrême droite.
Bon, et une fois qu'on a fait ce constat, Arthur, comment on peut vérifier de telles allégations ?
Alors c'est un petit peu plus compliqué que pour les faux tweets, parce que effectivement, les bulletins qui comportent par exemple une annotation peuvent être invalidés. Nous avons donc contacté des avocats spécialistes du droit constitutionnel et même la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. Ils nous ont confirmé que ces très petites imperfections n'entraînent pas l'invalidation de ces bulletins. Et chose intéressante, on nous a aussi précisé que le premier tour nécessite l'impression de plus d'un milliard de bulletins de vote. Donc oui, il arrive effectivement qu'il y ait parfois des erreurs d'impression ou d'envoi, mais il y a toujours des bulletins valides à disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Et finalement, au premier tour, il n'y a eu qu'environ 250 000 bulletins nuls. Cette rhétorique de l'élection truquée, qui a notamment été reprise par Nicolas Dupont-Aignan ou encore Jean Lassalle, ne tient donc pas plus la route que celle des faux tweets.
Merci Arthur Bamas de la rédaction des Observateurs de France 24. J'invite bien sûr nos auditeurs à aller voir un peu votre travail, très bon travail en général, sur le site de France 24. Allez, on reçoit à présent l'invité des Dessous de l'Infox cette semaine, Thomas Huchon, qui vient de publier Anti-Fake News, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. C'est aux éditions First, coécrit avec Jean-Bernard Schmitt et illustré par Rodo. Thomas Huchon est au micro d'Adrien Delgrange.
Thomas Huchon, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pour comprendre, décortiquer le phénomène de l'infox, j'aimerais avec vous reprendre cette expression que l'on trouve dès le début du livre, à l'instar de la pandémie, vous parlez de l'infodémie.
L'infodémie, en fait, c'est un terme qui a été utilisé par l'OMS au tout début de la pandémie de Covid-19. Ils ont qualifié l'épidémie de fausses informations qui circulaient, notamment sur les réseaux sociaux, autour des questions sanitaires. Et donc, le patron de l'OMS a expliqué qu'au-delà de la pandémie, qui était un vrai problème auquel nous devions faire face, il y avait un autre problème, qui était cette infodémie, cette maladie de la fausse information qui se répand sur nous et qui a des conséquences sanitaires. Puisque cette infodémie, elle motive aussi le refus de tout un tas de pratiques sanitaires, les gestes barrières au tout début de la pandémie, et dans la foulée, la vaccination. Et donc cette espèce de, non pas de doute, mais de soupçon qu'ont porté tout un tas de Français ou même ailleurs dans le monde, ça a un mot, ça s'appelle désormais l'infodémie.
Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce guide ? Plus largement, quelle est l'ampleur du danger qui nous guette ?
Je crois qu'il y a plusieurs dangers qui nous guettent, mais il y en a un que tout le monde peut comprendre. Ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est ce que nous partageons. C'est que, grosso modo, nous partageons un certain nombre de choses. Ce que nous partageons, ce n'est pas la vérité. Chacun a quelque part sa propre vérité. Ce que nous partageons, ce sont les faits. De ces faits, nous allons interpréter nos vérités. Et si nous partageons ces faits, on peut discuter, on peut débattre et à la fin, on peut vivre ensemble. Et en fait, l'avènement de ces nouvelles sources d'information, eh bien, ça crée un monde dans lequel on ne partage plus les faits. On ne partage plus ce qui nous permettait de discuter ensemble. Et le vrai risque, eh bien, c'est qu'à un moment, eh bien, cette vision différente à la base des choses, eh bien, nous empêche de partager quoi que ce soit et nous empêche de vivre ensemble. On voit bien d'ailleurs que finalement, ces croyances sur les fake news, sur les infox, mais aussi qui amène à la croyance aux théories du complot, eh bien ça peut parfois même briser des familles. Moi, on a reçu depuis le début de la pandémie des dizaines et des dizaines de courriers de gens qui nous disent « je ne peux plus parler avec ma sœur, je ne peux plus parler avec mon frère, je ne peux plus parler avec mes parents, ils me prennent pour un agent de Big Pharma, de machin, un menteur, quelqu'un qui est financé pour faire du mal ». Et je crois qu'il y a un truc qui est très inquiétant dans tout cela. Voltaire le disait bien mieux que nous à l'époque. Ceux qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. Et bien, on en est là.
Ce livre aussi est une forme d'autocritique à l'égard du lecteur. Comme si le problème, c'est vous, c'est moi, c'est nous.
Ben oui, en fait, le principal problème qu'on a face aux infox, ben c'est avant tout nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qui devrait être notre meilleur outil pour lutter, notre cerveau, notre esprit critique, eh bien, il devient quelque part notre pire ennemi, notamment parce que notre manière d'accéder à l'information a changé. Aujourd'hui, on ouvre de moins en moins le journal, on écoute de moins en moins la radio ou regarde de moins en moins la télévision et on utilise Internet. Internet, c'est merveilleux, mais ça pose un certain nombre de challenge et ça change la manière d'accéder à tout ça. Notamment parce que l'information n'est pas distribuée éditorialement, elle est distribuée algorithmiquement. C'est-à-dire que ce sont des machines qui décident ce que nous allons voir et leur manière de décider si nous devons ou pas voir quelque chose, bah c'est pas parce que c'est intéressant, c'est pas parce que c'est l'information la plus travaillée, celle qui contient le plus de faits, c'est parce que ça va capter notre attention. Et dans cette espèce de commerce pour l'attention des cerveaux humains, eh bien, les GAFA, les grandes entreprises de la technologie, ont compris que certaines choses marchaient mieux que d'autres. La colère, l'indignation, la violence, toutes ces choses qui font beaucoup plus appel à nos émotions qu'à notre réflexion, eh bien, ça marche beaucoup mieux. Et en fait, dans un monde où on subventionne entre guillemets en permanence la colère, l'indignation, eh bien, il n'y a plus de possibilité pour la réflexion. Et c'est aussi ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bascule dans nos sociétés et on a du mal à l'expliquer. On a du mal à comprendre pourquoi ces mouvements sociaux deviennent systématiquement violents. Eh bien, c'est parce que notre rapport à la réalité, il passe par ces réseaux qui stimulent en permanence nos émotions et qui font qu'on n'arrive plus à réfléchir.
Alors, en l'occurrence, on n'arrive plus à réfléchir. Vous l'évoquez aussi à travers un graphique. Vous évoquez, Thomas Huchon, cette montagne de la stupidité à laquelle nous pouvons être tous confrontés, autrement dit, l'illusion d'être intelligent.
Effectivement, c'est quelque chose qui a été théorisé par deux chercheurs en psychologie sociale, Dunning et Kruger. Ils ont théorisé ce qu'on appelle désormais l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, eh bien, c'est que quand on commence à s'intéresser à un sujet, notre illusion de connaissance est beaucoup plus grande que notre connaissance réelle. Et le problème, c'est que pour se rendre compte que nous sommes dans une forme d'illusion de ce que nous savons, eh bien, il faudrait s'intéresser beaucoup plus longtemps à la question. La majorité des gens va faire une petite recherche sur Google, lire une page Wikipédia, éventuellement un ou deux articles, et va avoir l'impression de maîtriser un sujet. C'est ce qui est arrivé à tout un tas de nos compatriotes, notamment sur les questions de médicaments, l'hydroxychloroquine, les vaccins, désormais la géopolitique. Toutes ces questions très, très, très compliquées qui demandent énormément de travail, eh bien, on a l'illusion de les maîtriser. Et du coup, eh bien, on monte cette montagne de la stupidité. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide, mais ça veut dire qu'on a l'illusion de savoir plus que ce qu'on sait. Et l'illusion de connaissance est beaucoup plus dangereuse que la bêtise qui s'assume, entre guillemets. Le vrai problème, c'est quoi ? C'est que moi, le meilleur exemple que j'ai pour expliquer l'effet de Dunning-Kruger, c'est moi, je faisais de la guitare. Et quand j'ai commencé à faire de la guitare, bah, j'ai très vite eu l'impression d'être le petit frère de Jimi Hendrix. J'arrivais à faire des trucs, c'était génial, et je pouvais vraiment frimer avec tout ça. La réalité, c'est qu'en fait, j'étais nul en guitare, mais que je m'en suis rendu compte à force de jouer, à force de me dire, ah, en fait, les solos de Jimi Hendrix, c'est pas du tout facile à faire. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand j'interroge un de mes meilleurs amis, qui est un très, très grand musicien et qui est, lui, un très, très grand guitariste, je lui dis, toi, t'es trop fort en guitare. Il me dit, mais non, en fait, il y a des mecs qui sont mille fois plus forts que moi. Et il y a un truc de cet ordre-là. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Alors ça, ça remonte bien avant l'effet de Dunning-Kruger, hein, c'est dans le Talmud, donc c'est des textes qui ont des milliers d'années, mais je crois que ça résume aussi assez bien notre époque.
Thomas Huchon, dans ce livre aussi, pour apprendre à vivre désormais avec ses infox, vous préconisez aussi d'avoir dans son sac à dos, dans son bagage, 5 participes passés, oui. À savoir signer, dater, sourcer, recouper, contextualiser.
Oui, en fait, ça, c'est une méthode. Il se trouve que, au-delà du travail de journaliste et de réalisateur de documentaires, moi, j'ai été appelé par des centaines d'enseignants depuis janvier 2016 pour aller dans leur classe, aller au contact des élèves et essayer de les aider à trouver une méthode pour vérifier des informations. Et donc, cette idée, c'est de transformer cette petite méthode en une forme de cri de guerre. Hein, est-ce que c'est signé? Est-ce que c'est daté? Et donc, c'est comme ça qu'on a inventé ce truc-là. C'est quoi? C'est les 5 W. Hein, ce sont les questions qu'on se pose tous en tant que journaliste quand on veut vérifier une information. Et on essaie de les appliquer pour que chacun puisse le faire. Je sais bien que tous nos compatriotes ne vont pas vérifier les informations auxquelles ils sont confrontés. Mais s'ils le souhaitent, ils auront déjà une petite méthode. Et au-delà de ça, je crois qu'il faut aussi le dire, il faut qu'on regagne ce combat culturel. Les complotistes et ceux qui diffusent des fake news nous font croire qu'ils sont plus forts dans le doute, dans l'interrogation et dans l'enquête que les journalistes professionnels. La réalité, c'est que, en général, les journalistes professionnels font quand même assez bien leur métier, surtout que ce métier, il est super cool. Fouiller des infos, se transformer en un espèce d'Hercule Poirot de l'information, c'est génial, c'est drôle. Ça peut être un jeu qu'on fait en famille, ça peut être quelque chose qu'on fait avec ses potes. En buvant un coup, on sort le téléphone, chacun vérifie un truc. L'un vérifie la date, l'autre vérifie l'identité de celui qui publie l'info, l'autre vérifie le contexte. Et à la fin, on pourrait, à mon avis, recréer une forme de générations qui seraient motivées par l'envie d'esprit critique. Mais pour ça, il y a un énorme combat culturel à gagner. Et il faut, quelque part, assumer le fait qu'il faut combattre. Hein ? On est face à des gens qui sont fondamentalement contre la presse. Il ne faut pas oublier quelque chose. On ne croit jamais à une seule théorie du complot. Ça ne veut pas dire que si on croit aux reptiliens, on croit forcément que la Terre est plate. Ça veut dire que si on croit aux reptiliens, ou à la Terre plate, ou au Covid-19 inventé pour en faire une arme bactériologique, on croit systématiquement à une deuxième théorie sous-jacente. Les médias vous manipulent et vous mentent sur ces questions. Ils sont donc les complices du mensonge. Et quelque part, cette petite musique, elle s'est installée chez de très nombreux compatriotes, chez de très nombreux citoyens français. Et il faut qu'on aille mener ce combat pour reprendre la légitimité de nos métiers.
Et d'ailleurs, vous donnez 3 conseils pour débattre avec un conspirationniste.
Oui, alors débattre, c'est un bien grand mot parce que c'est très difficile. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas chercher à contredire. Ça paraît dingue de se dire que quand quelqu'un dit n'importe quoi, il ne faut pas le contredire. Mais en fait, la meilleure réponse à une question d'un complotiste, ce n'est pas une réponse, c'est une question. C'est-à-dire qu'il faut retourner la charge de la preuve. Quand quelqu'un vous assène quelque chose qui vous semble un peu loufoque, demandez-lui d'où ça vient. Demandez-lui comment est-ce qu'il le sait, quelle est la source de l'information. Essayez de retrouver un petit peu de logique dans la diffusion d'infos. Le deuxième élément, c'est qu'il faut maintenir le contact. On l'a dit, c'est avant tout une relation humaine quand on discute avec quelqu'un. Et donc, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas dénigrer l'autre, il faut accepter quelque part ses croyances. C'est très difficile, mais il faut accepter qu'il ait des croyances différentes et peut-être les interroger. Et enfin, la troisième chose, ça va être d'essayer de trouver avec cette personne une forme de nouveau terrain d'entente, de reposer entre lui et vous un certain nombre de choses, les faits, qui vous permettront d'avoir cette discussion, ce débat et à la fin même de vivre ensemble.
Et pour en savoir davantage, approfondir le sujet anti-fake news, le guide indispensable pour démêler le vrai du faux, co-signé par Thomas Huchon, Jean-Bernard Schmitt, illustré par Rodo aux éditions First. Merci à vous, Thomas Huchon.
Merci.
Entretien signé Adrien Delgrange et on referme cette émission avec lui. Vous pouvez bien sûr la réécouter sur internet et sur nos applications mobiles. Arnold Assewa était à la coordination, Hélène Avril à la réalisation. Un grand merci à eux et merci à vous d'être fidèles à RFI. Les Dessous de l'Infox reviennent vendredi prochain, même heure, même endroit. Et en attendant, gare aux fausses nouvelles. Excellente soirée.